Et nous débutons bien sûr avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La partie législative arrive à son terme, mais les syndicats de cheminots veulent mettre la pression sur les négociations au sein de l'entreprise désormais. Encore faut-il que le front syndical reste uni. Hier, les syndicats de cheminots n'ont pas réussi à s'entendre sur une grève qui serait prolongée au-delà du 28 juin. Analyse dans un instant.
L'opposition vent debout contre Emmanuel Macron et ses propos sur les aides sociales qui coûtent, je cite le chef de l'État, un pognon de dingue. Un chef de l'État déconnecté des réalités des Français, selon ses détracteurs.
Le coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe du Monde de football. 3 semaines de compétition sportive, d'offensive diplomatique également, avec Vladimir Poutine en pointe dans les dossiers syriens et yéménites, vous l'entendrez. La planète foot côté finance exulte. Elle anticipe quelques milliards de recettes supplémentaires sur un marché mondial qui pèse déjà 700 milliards de dollars. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour. Catherine, dans une quinzaine de minutes, nouvelle route de la soie. Pourquoi la France est-elle en train de rater le plus grand projet commercial du 21e siècle? On posera la question à Claude Meyer, professeur à Sciences Po.
L'exécutif touche à son but. La réforme ferroviaire doit être définitivement adoptée aujourd'hui au Sénat, après le feu vert accordé hier par les députés. Transformation de la SNCF en société anonyme pour permettre l'ouverture progressive du rail à la concurrence. Fin des recrutements également avec le statut de cheminot à partir de 2020. Si les piliers de la réforme n'ont pas bougé, la contestation, elle, s'est essoufflée. Moins de 13% de grévistes hier. Niveau le plus bas depuis le début du mouvement social en avril dernier. Et les divergences sont de plus en plus visible au sein de l'intersyndicale qui s'est réunie hier à Paris alors que la CFDT appelle à suspendre la grève pendant les épreuves du baccalauréat. Cette position est dénoncée par la CGT, l'UNSA et Sudrail. Eva Jednak.
À la sortie de la réunion et aux côtés des autres représentants syndicaux, Didier Aubert de la CFDT Cheminot a bien du mal à justifier la décision unilatérale prise la veille par son syndicat. Pendant plusieurs minutes, il cherche ses mots, puis il explique que la CFDT n'appelle que les conducteurs à cesser la grève les 18 et 22 juin prochains.
C'est pas une histoire de trêve. Il faut qu'effectivement, il puisse y avoir des TER pour acheminer les candidats au bac. C'est pas une grève allégée, c'est que sur... Nous appelons 95% des cheminots qui ne sont pas concernés par l'activité TER à amplifier la mobilisation la semaine prochaine. Et sur les 5 autres pourcents, mais qu'on prenne dans ces 5 autres pourcents pour tirer les trains du quotidien. Donc c'est une adaptation et pas du tout un allègement d'une suspension.
Après 5 heures de discussion, donc aucune ligne n'a bougé. L'union syndicale est maintenue en apparence, du moins. La grève aussi jusqu'au 28 juin. Laurent Brun de la CGT Cheminot veut maintenir la pression sur le gouvernement.
Si le gouvernement veut résoudre le problème et que la grève cesse, il a une solution qu'il n'a pas employée jusqu'à présent, c'est une vraie négociation sincère. Donc s'il n'y a pas de vraie négociation sincère, dans ces conditions, évidemment, nous appelons à poursuivre la mobilisation.
Demain, l'intersyndicale passera une bonne partie de la journée avec la ministre des Transports et le patronat du secteur ferroviaire. L'objectif, définir les termes de la future convention collective nationale. La CGT assure que s'ils n'en sont pas satisfaits, de nouvelles dates de grève seront annoncées dès le début de la semaine prochaine.
Et de son côté, Patrick Jeantet, à la tête de SNCF Réseau, appelle les cheminots à cesser leur mouvement.
Cette loi est adoptée par le Parlement, donc oui, cette grève doit s'arrêter. Et d'ailleurs, je noterai qu'un certain nombre de syndicats avaient fait des propositions de modifications, qui ont été adoptées notamment au Sénat par des amendements, et qui ont, de leur point de vue, amélioré cette loi. Oui. La loi est votée, appliquons la loi, et par contre, nous sommes prêts à négocier au niveau de l'entreprise, bien sûr.
Combien a coûté cette grève après 30 jours de mouvement?
On estime aujourd'hui que la grève a coûté jusqu'à mi-juin 400 millions d'euros.
Patrick Jeantet, le PDG de SNCF Réseau, interrogé par Jean Lémarie. Et avant une table ronde tripartite demain entre gouvernement, syndicats et patronat pour discuter de la nouvelle convention collective de la SNCF, la CGT, FO et les syndicats étudiants et lycéens de l'UNEF, de l'UN et de la FIDEL ont annoncé hier une journée de mobilisation interprofessionnelle le 28 juin prochain, date de fin de la grève en pointillé à la SNCF. Une manifestation, une mobilisation interprofessionnelle pour dénoncer de manière globale la politique sociale d'Emmanuel Macron. Eux descendent une nouvelle fois dans la rue pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Les retraités sont appelés à manifester partout en France aujourd'hui à l'appel de 9 syndicats contre la politique du gouvernement. Au lendemain d'une annonce d'Emmanuel Macron, la présentation d'une loi sur les retraites au début de l'année 2019, le chef de l'État a dit vouloir maintenir notre système de retraite par répartition et la solidarité entre générations. C'était lors d'un discours au congrès de la Mutualité française hier à Montpellier. Emmanuel Macron qui a plaidé pour un solidarisme qui va, je cite, avec la fin d'une société de statut. Mais ce que l'opposition retient d'hier, ce sont les propos du chef de l'État sur les aides sociales tenues dans une vidéo diffusée sur Twitter par la directrice de communication d'Emmanuel Macron. Le président dit regretter que l'on mette, je cite, un pognon de dingue dans les minima sociaux et que les gens pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir, explique Emmanuel Macron. Si la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a défendu hier un langage parlé de sincérité, le président dit quelque chose d'essentiel qu'il vaut mieux prévenir que guérir, toujours selon Muriel Pénicaud. L'opposition, elle, estime qu'un président ne devrait pas dire ça, en référence à l'ouvrage qui avait marqué la fin du quinquennat Hollande. La chef de file des députés socialistes, Valérie Rabault, a estimé que ses propos et ce ton n'étaient pas adaptés à un président de la République française. Une opinion partagée par Olivier Falorni, député radical de Charente-Maritime. Selon lui, Emmanuel Macron est déconnecté des réalités des Français.
Qu'il faille réformer, évidemment, la situation, si elle était satisfaisante, n'amènerait pas la France dans de telles situations. Mais je crois que parler en permanence d'aide sociale comme finalement une sorte de petit supplément d'âme, en disant qu'on y met trop de pognon, alors que des milliards et des milliards d'euros sont déversés pour aider un certain nombre de grandes entreprises qui n'ont pas besoin d'un seul centime d'euro, je trouve que c'est complètement déconnecté. C'est une provocation ou alors c'est une maladresse folle, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez insultant pour des millions et des millions de gens qui vivent de ces allocations et qui, croyez-moi, ne seront jamais soumis à l'impôt sur la fortune immobilière.
Olivier Falorni, député radical de Charente-Maritime, au micro de Mayouen Bordron.
Vous écoutez les matins de France Culture. Il est 7h07 et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Il crée un axe commun contre l'immigration illégale.
Les ministres italiens, autrichiens et allemands de l'intérieur, des faucons sur la brûlante question migratoire, veulent constituer un axe des volontaires pour s'attaquer à l'immigration clandestine, ajoutant ainsi à la cacophonie européenne sur le sujet. En pleine crise entre la France et l'Italie sur la responsabilité de l'accueil des migrants à bord de l'Aquarius. Cet axe Rome-Berlin-Vienne a pour objectif d'isoler également la chancelière allemande Angela Merkel, déjà chahutée dans son pays pour sa politique d'asile jugée trop généreuse. On y revient dans le journal de 7h30. Theresa May a enregistré une deuxième victoire au Parlement britannique hier, mais la première ministre est attendue au tournant par les députés pro-européens de son propre parti conservateur. Il compte sur elle pour tenir ses promesses en permettant au Parlement d'avoir son dernier mot à dire sur l'accord final du Brexit signé avec Bruxelles. Toujours au Royaume-Uni, un an après l'incendie de la tour Grenfell à Londres, qui avait coûté la vie à 72 personnes, 72 secondes de silence ont été observées hier à Londres. Les Londoniens qui ont participé à une veillée, à une manifestation exigeant que justice soit faite après l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le Royaume-Uni depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'enquête est en cours, elle n'a pas encore permis d'établir toutes les responsabilités, mais elle montre les effets de plusieurs décennies de dérégulation et de privatisation des logements sociaux. Un an plus tard, les deux tiers des résidents n'ont toujours pas été relogés et ils habitent dans des hébergements temporaires. Antoine Gignot.
Depuis sa chambre d'hôtel, Hamid peut presque apercevoir les échafaudages et le cœur vert dessiné au sommet de la tour. Il habitait au 16e étage, il a tout perdu dans l'incendie.
Ça fait un an qu'on est au milieu de nulle part, un an qu'on habite à l'hôtel avec ma sœur dans la même chambre que ma mère. Ça fait un an qu'on doit acheter de la nourriture à emporter, un an qu'on nous ignore.
Cette lenteur dans la prise en charge des survivants, même la première ministre s'en aperçoit. Et s'en excuse. Mais Theresa May incrimine surtout le conseil local du quartier de Kensington et Chelsea, accusé d'avoir ignoré les alertes des habitants de la tour, comme Hakim Mohamed. Son père, sa mère, sa sœur et ses deux frères sont morts dans l'incendie.
Mes parents étaient âgés, ils avaient des problèmes pour se déplacer. Mon père avait déjà eu deux attaques et une crise cardiaque. Il n'aurait pas dû être au 17e étage. On s'en est plaint à de nombreuses reprises.
C'est cette responsabilité des inspecteurs incendie du quartier, celle des pompiers, celle des ministres qui ont abaissé les normes de sécurité que l'enquête cherche à déterminer. Le gouvernement s'est déjà engagé à dépenser 400 millions pour faire changer le revêtement mural des immeubles sociaux. En attendant d'être relogé, Hamid assiste aux audiences. Tout ce qu'on veut, dit-il, c'est qu'on rende justice aux gens qui sont morts.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Une nouvelle preuve de vie pour Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde. La septuagénaire qui travaillait dans la région de Gao, au Mali, dans l'humanitaire, avait été enlevée fin 2016 par un groupe lié à Al-Qaïda. Elle apparaît dans une vidéo impossible à dater, Isabelle Labéry.
Cela fait 536 jours que Sophie Pétronin est retenue quelque part dans ce désert immense aux confins du Mali et du Niger. Jusqu'à présent, ses ravisseurs n'avaient publié que deux preuves de vie, en juillet 2017 et en mars, cette année, deux vidéos dans lesquelles la septuagénaire apparaissait très affaiblie, la peau marquée par la brûlure du soleil. Sophie Pétronin, qui vivait dans le Nord Mali depuis près de 20 ans, avait monté sa propre association pour venir en aide aux orphelins et aux enfants souffrant de malnutrition. En 2012, elle avait échappé de peu à un enlèvement et était restée parfaitement consciente du danger. En France, son fils reproche régulièrement au gouvernement de l'avoir oublié, abandonné, de n'avoir tenté aucun rapprochement ou dialogue avec ses ravisseurs. Un groupe de mouvements djihadistes dirigé par un chef touareg, Yadag Rally, c'est contre lui que les forces françaises de Barkhane concentrent leurs actions dans la région.
Passons maintenant au Mondial de football qui s'ouvre à 16h30 cet après-midi, heure de Paris.
Добро пожаловать на чемпионат мира FIFA. Welcome to Russia.
Bienvenue à la Coupe du Monde de la FIFA, bienvenue en Russie, souhaite Vladimir Poutine. Match d'ouverture donc cet après-midi entre la Russie et l'Arabie Saoudite, ou le pire match d'ouverture de l'histoire de la Coupe du Monde de foot, selon les experts du ballon rond. Mais cette rencontre va se déplacer sur le terrain politique. À cette occasion, Vladimir Poutine va rencontrer le jeune prince héritier Mohamed bin Salman. Il sera question de pétrole notamment, pour défendre un même intérêt. Les deux hommes n'hésitent pas à jouer dans la même équipe, Clarence Rodriguez.
La rencontre Poutine-MBS se tiendra loin du terrain du sport, à huis clos, sans clameur des passionnés de ballon rond. C'est une confrontation qui se veut entre guillemets amicale, compte tenu des enjeux et du contexte géopolitique dans une région tectoniquement prête à imploser dans les conflits en Syrie et au Yémen, entre autres. Les deux premiers pays producteurs de pétrole au monde se rencontrent un mois après la hausse du prix du baril, $80, le plus haut depuis fin 2014. Hasard du calendrier, direz-vous ? Pas vraiment. Un peu comme si ces deux joueurs dans la vie, je précise, jouaient dans la même sélection. Depuis 4 ans, l'Arabie Saoudite et la Russie essuient une crise économique sans précédent. Ils veulent déployer un jeu collectif pour défendre un même objectif. Ils proposent en effet de relever leur production d'or noir. Proposition qui sera déposée les 22 et 23 juin prochains à Vienne, à l'occasion de la réunion des pays producteurs de pétrole, de l'OPEP, à laquelle la Russie n'appartient pas. Quant à l'accord sur la limitation de la production de pétrole en vigueur jusqu'à la fin de cette année, Moscou et Riyad n'envisagent pas de sortie de l'accord. Tactiquement, le 1-2 entre Poutine et MBS semble fonctionner sans tacle, apparemment, diront les experts. Cette entente circonstanciée permet notamment à l'Arabie Saoudite de mieux harmoniser la politique pétrolière mondiale. Elle n'avait en revanche aucune influence sur les autres pays producteurs de pétrole, alliés de la Russie, à l'instar du Venezuela, l'Algérie ou l'Iran, ennemis jurés des Saoudiens. En tout cas, le match Poutine-Mohamed bin Salman s'annonce sans doute plus passionnant que celui qui sera joué en ouverture de la Coupe du Monde par leurs équipes nationales.